donne un avis, un homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement.
Merci Noémie. Bon, tant pis pour l'écran. Alors, si vous avez suivi la lecture, donc dans 1 Corinthiens 7, les versets 25 à 35, vous avez sans doute compris de quoi est-ce qu'on va parler ce matin. Il s'agit du célibat à partir de ce texte. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes mariées dans la salle. Vous pouvez rester. Et en fait, vous pouvez même écouter aussi attentivement parce qu'il ne s'agit pas d'un message pour célibataires. Il ne s'agit pas d'un message ou d'un texte qui s'adresse exclusivement aux célibataires. Au contraire, on va voir qu'il a un enseignement pour tous, quelle que soit notre situation. Or, le célibat, c'est pas une chose dont on parle tous les jours. Et j'aimerais commencer par nous poser une question. Comment est-ce qu'on voit le célibat? Quand on nous parle de célibat, qu'est-ce que ça nous évoque? Est-ce que ça nous évoque la solitude? Pour certains, ça peut évoquer, je sais pas, peut-être la liberté. Pour beaucoup de célibataires, c'est une situation qui est difficile. Ça peut vraiment être une souffrance, surtout quand on arrive à cet âge, on voit les personnes autour de nous qui commencent à se marier, on se sent seul, on se demande ce qui se passe. Les gens autour de nous, notre famille, nous demandent quand est-ce que, enfin, on va leur présenter quelqu'un. Bref, c'est pas quelque chose de facile. Et je vais commencer par un petit blind test. Est-ce qu'il y a encore des gens qui reconnaissent les paroles de cette chanson? Ah. Vous vous souvenez de la chanteuse? Voilà. C'est une très vieille chanson. Je crois que la chanson a quasi 60 ans. Et grosso modo... Pardon? 50? Non. N'exagérons pas. Grosso modo, dans cette chanson, c'est dit que si on est célibataire, on n'est pas heureux. On a peur du lendemain. On est seul. On est en peine. Personne ne nous aime. Et puis notre vie, elle n'a pas de joie. Elle est pleine d'ennui. Et personne ne nous dit « je t'aime ». Certes, c'est hyper caricaturé, mais c'est un petit peu ce qu'on peut ressentir en tant que célibataire. Et c'est aussi parfois ce qu'on peut avoir tendance, volontairement ou non, à exprimer dans nos églises ou lors des mariages. Tout petit exemple, mais quand on dit dans les mariages, ce qui est juste, que l'homme et la femme se complètent, là-dessus, je suis d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que quand on est célibataire, on n'est pas complet? Et voilà pourquoi je pense qu'il est intéressant d'étudier ce texte, donc que Paul écrit aux Corinthiens. Et on va voir qu'il y a une déclaration surprenante de Paul, qui est que le célibat est quelque chose de bon. Et ensuite, on va examiner les deux gros arguments qu'il utilise pour défendre ça. Il se base sur le fait que Jésus revient bientôt et sur le fait que Jésus doit vraiment être notre priorité dans nos vies. Et donc, déjà pour nous, cette déclaration que Paul fait au verset 26, qu'il est bon pour un célibataire de le rester, ça peut être assez choquant ou surprenant pour nous. Mais il faut comprendre que c'était encore plus surprenant pour les personnes à qui il s'adressait. Donc pour donner un petit peu de contexte, Paul écrit ici à l'église de Corinthe, dans lesquelles il y avait des chrétiens qui étaient d'origine très différente. Ça faisait un petit peu des clans. Et ils étaient notamment divisés sur la question du mariage, de la sexualité. Il y en avait qui avaient tendance à vouloir éliminer complètement le mariage, d'autres à vouloir faire n'importe quoi avec leur sexualité, et d'autres à placer une valeur énorme sur le mariage et sur la famille. Et c'était particulièrement le cas des chrétiens d'origine juive. Et pourquoi est-ce qu'ils mettaient énormément d'importance sur le mariage et sur la famille? Ben parce que ça correspond à ce qui est dit dans la Genèse. Quand on voit le commandement que Dieu donne au moment de la création, il ordonne aux humains de se reproduire, de devenir nombreux et de remplir la terre. Petite leçon de SVT, pour se reproduire et devenir nombreux, il vaut mieux être deux personnes de sexe opposé. On a aussi le constat lors de la création de l'homme qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que la femme est créée pour, comme on l'a vu, compléter l'homme pour que les deux aillent ensemble. Et ça fait que dans tout l'Ancien Testament, on a vraiment cette vision que le mariage, que la descendance, c'est à la fois une manière de s'inscrire dans le plan de Dieu et c'est aussi une bénédiction de Dieu. Donc tout naturellement, pour les chrétiens d'origine juive, ils avaient un petit peu cette vision Disney qu'une histoire qui se termine bien, c'est une histoire où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et face à ça, voilà ce que leur répond Paul. Un célibataire qui reste célibataire, c'est bon. Et c'est pas juste quelque chose qui est bon pour Dieu et qui est une sorte d'énorme sacrifice, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'intérêt de la personne qui reste célibataire. Alors, je mets un petit panneau, attention, il s'agit pas pour Paul de dire que le célibat c'est super cool, c'est la chose à rechercher, et que le mariage ce serait nul. C'est pas ce qu'il dit, il cherche simplement à rééquilibrer une vision, celle de ses destinataires. Et je pense qu'on peut facilement avoir tendance à aussi déséquilibrer notre vision du mariage et à le placer comme un objectif, quelque chose à rechercher absolument. Et quand on regarde le vocabulaire que Paul emploie ici pour parler du célibat, il y a une première application qui n'est pas forcément facile. Si le célibat est quelque chose de bon, alors on peut remercier Dieu pour notre situation de célibataire. Tout comme on peut remercier Dieu pour le mariage quand il arrive et pour les bonnes choses qu'il nous apporte, on peut remercier Dieu pour notre célibat. Même si c'est pas quelque chose de facile, même si ça peut être une souffrance, en reconnaissant que malgré les apparences, on fait confiance à Dieu, qu'on est convaincu que ce qui nous arrive, c'est pas que Dieu ne nous aime pas, c'est pas que Dieu nous aime moins que des personnes qui ont trouvé l'homme ou la femme de leur vie. Non, Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et on choisit de lui faire confiance quand même. Donc vraiment une première application, on peut remercier Dieu pour notre célibat. Ça veut pas dire qu'on va pas demander à Dieu aussi de nous faire rencontrer quelqu'un avec qui partager notre vie. Mais reconnaissons que Dieu nous aime et qu'il prend soin de nous et qu'il nous donne des bonnes choses. Avant d'aller plus loin dans le passage, je vais vous emmener faire un petit détour dans un autre passage de la Bible qui va nous permettre de mieux comprendre la suite. Parce que là, Paul se permet de dire que le célibat est bon, alors que ça paraît, elle est en contradiction avec ce qu'on a vu avant, avec les commandements de la Genèse, avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Toute la vie de Paul était basée, depuis sa rencontre avec Jésus, sur une seule chose. Son but et son unique but, c'était d'annoncer l'évangile à ceux qui n'avaient pas entendu. Donc Paul était la personne par excellence qui avait compris le dernier commandement que Jésus a laissé à ses disciples. Qu'on peut lire donc dans Matthieu 28, c'est vraiment les derniers mots que Jésus laisse à ses disciples avant de retourner auprès de son Père. Et voici quel est ce commandement. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et là on voit que, si on les met en parallèle, Jésus est en train d'expliquer que par sa mort et sa résurrection, il nous fait entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle époque, des nouveaux temps, dans lesquels le plus grand objectif n'est plus la reproduction biologique, mais la multiplication spirituelle, la progression de son royaume. Donc en quelque sorte, Jésus nous amène dans une nouvelle époque qui vient dépasser l'ancienne époque. Et cette nouvelle époque, il y a aussi d'autres éléments très intéressants. Dans cette nouvelle époque, bonne nouvelle, Jésus est avec nous. Par son esprit, Jésus est 100% du temps avec ses disciples. Et donc là aussi, on a une application très concrète, c'est que même en tant que célibataire, si je suis chrétien, je suis bien moins seul que le plus marié des non-chrétiens. J'ai avec moi, en tout temps, le Créateur de l'univers qui, lui seul, peut répondre à tous mes besoins. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me sentir seul, mais ces moments où je me sens seul, c'est ces moments où, au contraire, il faut que je me tourne vers celui qui est tout le temps avec moi. Que je l'écoute, que je passe du temps avec lui, que je lui parle. Et il y a un dernier élément qu'on voit dans ce texte de Matthieu. C'est que cette nouvelle période que Jésus inaugure, dans laquelle le grand objectif, c'est la multiplication des disciples de Jésus. Cette nouvelle période dans laquelle il est avec ses disciples, par son esprit, en tout temps, en tout lieu. Et bien cette période, elle est temporaire. Là, ça se termine par « jusqu'à la fin du monde ». Donc Jésus inaugure une période qui est temporaire, qui est limitée dans le temps. Et ça, ça nous fait revenir au texte de Corinthiens. C'est vraiment l'argument que Paul utilise pour dire que le célibat est bon. C'est bizarre de le dire comme ça, mais le célibat est bon parce que Jésus revient bientôt. C'est quelque chose qui était clair dans la bouche de Jésus, qui est clair dans les lettres du Nouveau Testament. Et l'avant-dernier verset de la Bible, je ne sais pas si vous le connaissez, à la fin d'Apocalypse, Jésus dit « Oui, je viens bientôt ». Et en fait, l'idée là, pourquoi est-ce que Paul utilise cet argument? C'est qu'il est en train de dire « Notre unique priorité, tous nos choix de vie, ils ne doivent pas être orientés en fonction de ce qu'on peut trouver en plaisir ou en déplaisir sur cette terre. Ils doivent être orientés en fonction de la mission que Jésus nous a donnée, et en ayant conscience que le temps est court. En ayant aussi conscience qu'on ne loupe rien sur cette terre. Si je ne me marie pas sur cette terre, je n'aurai pas loupé grand-chose, voire rien du tout. La seule chose que je peux vraiment louper, c'est de servir Dieu et de m'inscrire dans la mission qu'il nous a confiée. Alors pour illustrer ça, c'est un peu comme si je vous offrais des billets pour une super croisière, première classe, grand restaurant, super orchestre. On va pouvoir passer des bons moments entre amis à profiter de tout ce qu'il y a sur ce bateau. Ça paraît bien, on a hâte d'y être. Maintenant, si je vous disais qu'en fait, ce bateau sur lequel vous allez être, c'est le Titanic, votre attitude pendant la croisière, risque d'être un tout petit peu différente. Vous n'allez peut-être pas profiter pareil, vous n'allez peut-être pas aller danser tous les soirs, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt, même si vous ne savez pas exactement quand, et vous allez essayer de vous y préparer, et de préparer ceux qui vous entourent. Et nous, en tant que chrétiens, on vit sur un espèce de Titanic. On croit que le monde dans lequel on vit, il sera bientôt jugé et que la plupart des personnes qui nous entourent vivront leur éternité loin de Dieu. Et ça, ça doit être vraiment notre priorité et ce qui guide tous nos choix. On a parlé de, donc on a donné des, Colin a donné des nouvelles de Daniel Coronès tout à l'heure. Et si vous lisez leur lettre de nouvelles, voici par quoi est-ce qu'ils terminent. Nous sommes prêts à mourir pour lui, pour Dieu, et même si ce que nous vivons est terrible d'un point de vue humain, ce ne sera jamais aussi terrible que d'ignorer le Créateur qui a offert sa vie pour nous. C'est des paroles qui sont dures, mais vraiment, là Paul, il veut remettre les choses en perspective. Notre vie sur terre, c'est juste un tout petit bout avant l'éternité. Et donc nos choix, ils doivent refléter cette conscience. Nous ne devons pas vivre comme si toute notre existence n'était que les 70, 80, 90 ans que nous passons sur terre. Ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas de profiter un maximum de ce qu'il y a ici et maintenant, mais de nous préparer et de préparer les personnes qui nous entourent à l'éternité qui vient après. Et c'est dans cet esprit que Paul prononce des versets assez surprenants, de 29 à 31. Il dit que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Alors c'est pas le genre de verset qu'on voit écrit sur les cartes de mariage, je sais pas trop pourquoi. Et puis c'est assez étrange, parce que tout au début du chapitre 7, Paul a justement dit que les personnes mariées devaient vivre comme des personnes mariées, en ce qui concerne la sexualité. On lit après que ceux qui pleurent vivent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se réjouissent vivent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Là aussi, c'est un peu surprenant quand on sait que Paul dit ailleurs qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, on sent que Paul ne nous demande pas ici de renoncer à tout ce qui pourrait se trouver sur terre en termes de bonheur ou de malheur. En fait, je pense que ce que Paul nous demande ici, c'est de garder la bonne perspective et les bonnes priorités. Il y a plein de photographies qui jouent sur l'effet de perspective. Ce qui est plus près de nous, nous semble plus grand, plus important que ce qui est loin. Et c'est pareil avec ce qui nous arrive, que ce soit en bien ou en mal. Ce qui nous arrive, ce qui nous touche personnellement, ça a tendance à prendre des proportions énormes. Et ce que Paul nous demande de faire, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle. Mais ce que Paul nous demande de faire, c'est de garder en tête qu'il y a quelque chose de derrière, qui est plus grand, qui est plus important. En exemple, bien, on a plein de sujets de réjouissance. Que ce soit les mariages, la famille, le travail, simplement de bons moments passés. Ce sont de bonnes choses que Dieu nous donne et on peut en profiter. Maintenant, si on leur donne trop d'importance, comme cette balle de golf, elles peuvent devenir énormes à nos yeux et nous faire oublier cet objectif, cette mission, le fait que les temps sont courts. Et comment faire pour remettre les choses à leur place? Eh bien, peut-être qu'une des solutions, c'est pour toutes ces bonnes choses qui vont nous arriver cette semaine, on peut déjà remercier Dieu de ce qu'il nous les donne, lui demander que ça ne prenne pas sa place, que ça ne prenne pas trop de place dans nos vies, et aussi le remercier, parce que franchement, même les bonnes choses qui nous arrivent, ce n'est rien par rapport au bonheur éternel dont on bénéficiera au paradis. Le meilleur est à venir, même dans les bons moments. En fait, les bons moments qu'on passe, c'est un petit peu comme l'apéro. On ne doit pas rester au moment de l'apéro. Quand on mange des apéritifs, ça doit nous donner faim, nous donner envie de profiter du bon et du vrai repas qui arrive après. Et c'est aussi vrai des mauvais moments, des mauvaises choses qui peuvent nous arriver et sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle. Et le célibat en fait partie. Ça peut être aussi des soucis de santé, des soucis familiaux, le chômage, plein de choses. Et comment faire pour qu'ils ne prennent pas toute la place? Eh bien, on peut les remettre à Dieu et aussi remercier Dieu parce que, comme Paul nous le rappelle, tout ça, c'est temporaire. Ça aura une fin et ce qu'on vit ici, ce n'est que le début d'une éternité de bonheur passé avec Dieu et que toutes les souffrances, toutes les épreuves qu'on traverse, Paul dit ailleurs qu'elles produisent un poids éternel de gloire. Donc en fait, l'idée n'est vraiment pas de refuser des joies ou des bonheurs qui nous sont proposés, ou de ne pas nous laisser affecter quand on a des épreuves dans notre vie, mais de garder le cap et de continuer à marcher droit, de continuer à suivre Dieu malgré ce qui nous arrive. Et quand on résume ça, le mariage, que ce soit la recherche de tous les bénéfices que ça apporte, ou la recherche d'éviter les souffrances que le célibat apporte, eh ben c'est peut-être quelque chose de légitime, mais ça ne doit pas être notre priorité. Ça ne doit pas être notre objectif principal. Et ça, ça fait le lien avec ce que Paul dit ensuite. Dans les versets 32 à 35, il est question de priorité. Paul rappelle que notre priorité dans cette vie, dans cette période temporaire, ça doit être de nous préoccuper des affaires du Seigneur et de plaire à Dieu. Alors un tout petit mot rapide sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça. Ben, je pense que tout simplement, il y a une partie qui est de se dire, voilà, il faut obéir et agir conformément aux commandements que Dieu nous donne dans sa parole. Donc pour ça, il faut bien évidemment les connaître. C'est pour ça que c'est hyper important de se confronter régulièrement à la parole qui nous a transmise dans la Bible, les mettre en pratique. Et il y a un autre aspect qui est aussi de s'inscrire dans ce grand commandement qu'il nous a laissé, de proclamer Jésus, de proclamer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore vraiment, qui ne l'ont pas accepté. Et pour ça, Dieu nous a donné des dons, différents à chacun. Et l'idée, c'est simplement de se demander, mais quel don Dieu m'a donné et que je pourrais utiliser pour son royaume, pour la mission qu'il m'a confiée. Et ça, ça doit vraiment être notre priorité. Et Paul utilise un argument qui est très rationnel ici. Dans ces versets, il dit que quand on est célibataire, on a tout simplement plus de temps à consacrer à Dieu que quand on est marié. C'est tout à fait logique. Et donc il ne s'agit pas de dire non plus que quand on est marié, c'est fichu, on ne pourra pas servir Dieu, mais que le célibat, c'est une super opportunité de consacrer du temps au service du royaume de Dieu. C'est un challenge, parce que plus on a du temps libre, en général, plus on le gaspille. Et il ne s'agit pas de dire que je vais absolument tout abandonner, tous mes loisirs, tout mon travail, pour passer 100% de mon temps à lire la Bible et à évangéliser dans la rue. Mais il s'agit peut-être simplement de, cette semaine, se poser la question de à quoi est-ce que je passe mon temps? Combien de temps je consacre à telle ou telle activité? Et d'en parler avec Dieu, de lui demander s'il n'y a pas une ou deux choses que je peux faire un tout petit peu moins et que je pourrais en profiter pour faire quelque chose pour toi. C'est pas intuitif. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire avec joie. Quand on en vient à servir Dieu, Dieu nous récompense et nous procure de la joie. C'est ce qu'il dit à la fin, quand il dit qu'il ne veut pas imposer de contraintes aux personnes auxquelles il écrit, mais il dit vraiment cela dans leur intérêt. Il ne veut pas qu'ils fassent des choses à contre-cœur, mais il veut qu'ils trouvent les choses qu'ils peuvent faire avec plaisir pour Dieu. Et si on prend un petit peu de recul par rapport au texte, donc les Corinthiens, où il y avait un petit peu des clans divisés sur la question du mariage, ils ont écrit à Paul en lui demandant, voilà, dis-nous clairement, est-ce qu'un chrétien, il doit se marier ou pas? Et Paul ne se contente pas de leur dire oui ou non. Il ne se contente pas de leur dire, c'est bien, c'est ok de pas se marier et c'est ok de se marier. Pourquoi ? Parce que Paul a repéré qu'il y avait un problème de priorité chez les Corinthiens. Si Paul avait juste répondu « c'est ok de se marier et c'est ok de ne pas se marier », eh bien il serait resté un problème chez les Corinthiens, qu'ils auraient fait leur choix en fonction de ce qui leur faisait plaisir et pas de Dieu. Et ça, c'est un petit peu un problème qu'on a aussi souvent, c'est qu'on cherche à savoir si quelque chose, c'est dans la case de ce qui est bien ou de ce qui est pas bien. Une fois qu'on est rassuré que c'est dans la case de ce qui est bien, de ce qui est permis, eh ben on se dit, youhou, je suis libre de faire tout ce que je veux. Et là, Paul, il dit non, c'est pas suffisant. Il y a quelque chose de plus, nos choix doivent vraiment refléter que Jésus est notre priorité absolue dans notre vie. Et que dans tous les choix qu'on fait, on devrait témoigner que ce qui est le plus important que l'évitement des souffrances, plus important que la recherche du plaisir, c'est Jésus. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas censé faire en traînant les pieds. C'est quelque chose qui est censé nous procurer du plaisir et qu'on est censé faire avec joie, par reconnaissance pour Dieu. Et c'est pour ça que chercher pour cette partie une illustration, alors j'ai essayé de trouver, une grande figure chrétienne historique qui aurait tout abandonné pour Dieu. En fait, je me suis dit que c'était peut-être pas ce que Paul voulait ici. Paul n'écrit pas à des gens en s'imaginant qu'ils sont tous appelés à renoncer au mariage pour avoir un ministère pastoral ou un ministère à plein temps ou un ministère d'évangéliste. Paul, je pense, est en train ici de prendre le mariage comme ce qui est sans doute un peu le summum de ce que Dieu nous propose sur terre en matière d'intimité, de plaisir, de relation. Il est en train de dire, voyez, ce truc-là, qui est sans doute la meilleure chose qui puisse nous arriver sur terre, et bien en fait, même ça, ça mérite d'être sacrifié pour Dieu. Parce que Dieu est digne qu'on lui sacrifie tout, et parce que Dieu nous procure bien plus. Et donc, on n'est pas du tout tous appelés à rester célibataires. J'espère ne pas l'être personnellement. Mais si ce qui est de meilleur sur terre, c'est digne d'être sacrifié pour Dieu et que ça vaut le coup d'être sacrifié, alors tout le reste l'est aussi. Et donc la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui prend trop de place? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie que j'ai peut-être à mettre de côté avec joie pour Dieu? Et là-dessus, je remercie les bons exemples qu'on a dans l'Église de personnes qui utilisent leur célibat d'une bonne manière, qui montrent que la priorité, c'est Jésus et son service. Et pour conclure, je dirais que une autre bonne question à se poser, c'est de quoi est-ce qu'on a peur? C'est souvent difficile de déterminer nos priorités, mais on peut se poser la question inverse, de quoi est-ce que j'ai peur? Souvent, la réponse à cette question n'est pas très glorieuse. Souvent, c'est une réponse assez égoïste. On a souvent peur du regard des autres, des événements mauvais qui peuvent nous arriver sur cette terre. Mais ce texte nous révèle que notre plus grande peur, ça devrait être de ne pas servir Dieu pendant cette période qu'on a sur terre. Ça devrait être de ne pas rendre gloire à Dieu par nos vies sur le temps qu'on a ici. C'est une conclusion qui peut être assez plombante. Alors je tiens quand même à rappeler que le cœur du message, c'est quand même une bonne nouvelle pour aussi nous qui sommes célibataires, que c'est pas un plan B de Dieu. Dieu ne nous aime pas moins. Au contraire, c'est une super opportunité de le servir qu'il nous fait. Qu'on ne manque rien, qu'on n'a rien de moins que les autres, et que le meilleur est à venir. Qu'on peut proclamer par nos vies que Dieu est pleinement suffisant pour nous. Et ça, c'est une super manière de rendre gloire à Dieu. Mais tout ce qu'on a dit, et j'aimerais terminer par là, ça peut paraître assez écrasant. Parce qu'on reste des personnes assez égoïstes, et quand on s'examine, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'il y a des choses qui sont trop lourdes à lâcher. Et c'est pour ça que j'aimerais nous laisser avec le dernier verset de la lettre aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était pas du tout des chrétiens modèles, mais alors pas du tout. Paul y passe son temps à les reprendre, à leur donner des nouveaux commandements. Il y a des jolis tacles dans les lettres de Paul aux Corinthiens. Mais il termine sa lettre comme ça. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce que déjà, ça nous rappelle que nos progrès en matière de sanctification, nos progrès en matière de corriger nos priorités dans nos vies, nos progrès en matière d'être moins égoïste, moins désobéissant, mais ils sont rendus possibles par Jésus, par ce qu'il a fait à la croix, par son esprit qu'il met en nous. Donc, tout ce qu'on vient de dire ici, c'est possible. Même si, pour nous, humainement, c'est impossible, c'est possible grâce à Jésus. Et la deuxième chose que ça nous rappelle, c'est que pour toutes les fois où on n'y arrive pas, pour toutes les fois où on reste égoïste, on fait des choix qui ne rendent pas gloire à Dieu, eh bien Jésus est là et reste là pour nous pardonner. Et donc c'est vraiment un combat continuel de revoir nos priorités chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour chercher à progresser avec Dieu. Chercher à être plus proche de lui, plus obéissant, à lui rendre toujours plus gloire dans nos vies. Et il est là pour nous rattraper. Et il est là pour nous pardonner quand on n'y arrive pas, et ça arrive malheureusement souvent. Je vous propose qu'on chante « Te connaître », qui illustre, je pense, très bien ce que Paul dit ici. L'idée que on a vraiment envie, dans nos vies, dans nos choix, de témoigner que notre unique priorité, notre principale priorité, notre objectif, c'est Jésus et uniquement lui. Et qu'on fait ça avec en ligne de mire qu'on passera l'éternité dans sa gloire.